Nous commençons la dernière séance de ce colloque, séance intitulée « La ligne du risque, la revue en jeu ». Alors, nous entendrons tout d'abord Éric Perron. Sa communication s'intitule « Un combat de tous les instants ». Éric Perron se décrit comme une personne qui carbure au journalisme, aux médias ainsi qu'au cinéma, et ce, depuis l'adolescence. Ses champs d'intérêt se précisent pendant ses études en cinéma au Cégep de Saint-Laurent à Montréal au début des années 1990. Il crée un journal étudiant, un hebdomadaire de 12 pages, exclusivement consacré au cinéma. Cette expérience sera suivie pour lui d'un apprentissage autodidacte du journalisme écrit, dont la pratique prendra différentes formes. En mai 2001, il joint les rangs de l'Association des cinémas parallèles du Québec pour, entre autres, assurer le développement de la revue Cinébule. Un an plus tard, il en devient le rédacteur en chef. Il est également responsable du rayonnement du trimestriel. Il a rédigé au fil des ans nombre de textes, dont une série de reportages sur la production du film « Le Ring » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Sans plus tarder, je cède la parole à Éric Perron.
Merci. Cité à comparaître, déjà, je ne sais pas si je suis accusé. Je pense que je vais préférer le rôle de témoin. Ça se peut, ça, oui. Alors, quand Patrick Poirier m'a envoyé un mail, je pense que c'était en juillet cet été, j'ai dit je vais être un avide... un fidèle spectateur, mais pour participer, pour faire une intervention, je pense que c'est pas vraiment ma place. Je suis davantage un gars de terrain qu'un théoricien. Et j'ai dû lui répondre que, de toute façon, on faisait ce qu'on pouvait, puis que le journalisme n'existait pas au Québec. Alors, espèce de boutade. Et, naturellement, il m'a envoyé un autre mail. Je pense qu'il a tartiné un peu pour dire « Ah, mais c'est tellement essentiel que vous soyez là. » Et, bon, finalement, vous connaissez le truc. Alors, j'ai accepté et, comme je vous disais, je vais être témoin. Et j'ai quelques notes. Je vais essayer que ce soit le plus structuré possible. Mais, bon, vous me direz après, pendant l'échange, si les choses ne sont pas très claires. Alors, un combat de tous les instants. Moi, je dirais que mon premier combat, c'est contre Hollywood. Parce que c'est assez David, ça. David contre Goliath. Ça aussi, c'est une boutade, mais en fait, c'est une façon plus directe de dire que je prône et j'encourage la diversité. Et je pense que sur un territoire où le cinéma hollywoodien occupe 82-83% du temps écran, je pense que ça va de soi. Il faut qu'il y ait des gens qui militent et qui essaient de changer les choses en offrant des plateformes, des outils. Et moi, j'essaie d'incarner ça à travers ma participation à Cinébule. Officiellement, je suis rédacteur en chef, mais j'aimais beaucoup le terme de M. Coppens hier, animateur. Je pense que je me sens plus à l'aise avec... surtout que je suis responsable également du développement du lectorat et des conférences et tout ça. Donc, animateur, ça me va assez bien. Donc, le premier combat, c'est donc celui-ci. Puis ensuite, donc ça s'incarne à travers Cinébule. Et évidemment, on parlera tout à l'heure du vrai combat. C'est qu'une fois que tu as déterminé quel allait être ton outil, il s'agit de le rendre aux gens, quoi. Quand je suis arrivé à Cinébule, il y a 7-8 ans déjà, en 2001-2002, c'était clair pour moi qu'on ne pouvait pas écrire sans espérer avoir des lecteurs et espérer avoir toujours davantage de lecteurs. Alors, je me suis donc employé à cela. Mais avant de parler de ce combat, je vais dire juste un mot sur le contexte pour comprendre un peu d'où vient Cinébule. Cinébule est publié par l'Association des cinémas parallèles du Québec. Okay. Ça n'a rien à voir en partant, je vous le dis pour les Montréalais, ça n'a rien à voir en partant avec le cinéma parallèle qui se trouve à Excentriste. C'est complètement autre chose. Ben, complètement. On défend aussi le cinéma d'auteur, mais c'est, ils ne sont pas membres chez nous. Donc, pour vous situer, l'Association des cinémas parallèles, vous l'avez vu au printemps dernier, il y a eu une crise. OK? qui est sorti dans les médias, contre les salles commerciales. Alors, c'était les salles commerciales contre le Réseau Plus. Alors, Réseau Plus est une entité des cinémas parallèles. Donc, l'Association des cinémas parallèles, c'est un regroupement de salles qui diffusent du cinéma d'auteur à travers tout le Québec. Alors, encore une fois, pour les gens qui savent plus ou moins ce qui se passe au-delà des ponts, le cinéma que vous pouvez voir à Excentris, bien, partout ailleurs en province, il est surtout dans nos salles. Donc, voilà. Ça, c'est le premier mandat de la CPQ. Le deuxième mandat, c'est un mandat d'éducation cinématographique à travers le programme offert aux professeurs du secondaire qui s'appelle L'œil cinéma, pour fournir un catalogue de films à des professeurs pour qu'ils puissent visionner ces films-là en classe et ainsi ouvrir le regard ou l'intérêt, susciter l'intérêt des jeunes pour autre chose que du cinéma hollywoodien. Et la troisième activité en importance, c'est l'édition. C'est la revue Cinébulle. Et Cinébulle est exactement au carrefour des deux premiers mandats. Donc, c'est une revue qui s'intéresse et qui défend le cinéma d'auteur. Et ça se veut, j'aime bien l'appeler comme ça parce que ça me va très bien en termes de modestie, c'est un outil d'éducation cinématographique. Mais ce n'est pas une revue corporatiste. Il y a un comité de rédaction autonome. Et moi, comme rédacteur en chef, même si j'ai également des tâches au sein de l'association, je suis quand même complètement 100% responsable des contenus qui se trouvent dans Cinébulle. Et personne ne m'impose naturellement de sujet. Ça va de soi. Sinon, je ne serais pas là. Donc, Cinébulle, ça fait 25 ans que ça existe. Donc, fondé en 1982, 4 numéros par année. Et moi aussi, je suis le 7e rédacteur en chef. Et moi aussi, Sylvette, je vais un peu corriger le devoir. Parce que c'est un peu insultant. Tantôt, quand je disais pas de journalisme au Québec, là, c'est assez déroutant de voir que tu prends du temps pour parler à des journalistes et tu as des erreurs de fait comme ça. C'est complètement hallucinant. Alors, ça disait que cet rédacteur en chef, en 26 ans, la vie de Cinébulle ne s'était pas faite sans remous. Alors, c'est totalement stupide et même un peu insultant pour les gens du bureau parce que il y a encore 4 ou 5 rédacteurs en chef qui écrivent encore dans Cinébulle sur 7. Alors, je pense qu'on peut dire que la passation se fait assez bien. Donc, cinéma d'auteur, contenu en rapport avec l'actualité, toujours 3 mois avant, 3 mois après, critique, analyse, entretien, festival, fiction, documentaire, animation, et surtout, ce qui entoure les films. Ça, c'est vraiment une particularité de Cinébulle. Par exemple, je ne sais pas moi, 14 ou 15 pages pour expliquer quel est le rôle et quels sont les défis de la régie du cinéma. Par exemple, 16 pages sur comment est-ce qu'on fait les doublages au Québec. Bon, vous allez me dire, c'est pour les cinémas hollywoodiens, mais je pense que c'était surtout pour les artisans du doublage au Québec, avec un 6 pages d'entretien avec Curzi dans ses derniers mois de président à l'UDA sur oui ou non, doublage au Québec, pourquoi pas, etc. Par exemple, je ne sais pas moi, 8 ou 10 pages sur comment fonctionne le vote au Jutra. Souvent, dans les quotidiens, dans les hebdos, il va y avoir 300-400 mots assez impressionnistes et très, très imprécis et certainement incomplets. Alors, nous, on en profite pour amener quelque chose de plus complet dans les pages de Cinébulle sur ce genre de dossier-là. Donc, évidemment, il sort environ sur les écrans, tu me corrigeras, Philippe, si je me trompe, 350-400 films par année seulement sur les écrans. Et ça, c'est en dehors des festivals. Nous, on publie 250 pages par année. Alors, c'est bien évident qu'il faut faire des choix. Déjà, on exclut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma hollywoodien. Et ensuite, on fait des choix sur qu'est-ce qui vaut la peine d'être traité. Alors, si, par exemple, Guy Lepage fait un premier film, ben on n'attend rien de ce film. Et finalement, c'est rien aussi. Si Bon Cop, Bad Cop sort ou Nitro, on ne s'intéresse pas. Par contre, on va surveiller le prochain Bernard Raymond ou le prochain Stéphane Lafleur ou le prochain Anaïs Barbeau-Lavalette, que ce soit qu'on en pense du bien ou du mal. Forcément, il faut aller plus loin que les quotidiens, il faut aller plus loin que les hebdos, sinon ça vaut vraiment pas la peine. On aime publier des textes de qualité et accessibles à un large lectorat. Moi, ce que j'essaie de viser un public pour amener les gens qui vont voir, par exemple, vous allez dire, c'est complètement naïf, j'essaie d'amener les gens qui vont voir que du cinéma hollywoodien essayer d'autres genres de cinéma. Donc, c'est un cinéma d'auteur, mais accessible. Ce sont les collaborateurs, par leurs propositions, qui construisent les sommaires. Moi, j'ai l'habitude de dire que je gère le trafic. On a une politique éditoriale, on a une ligne. Je fais en sorte que tout ça soit le plus cohérent possible. J'essaie de trouver les meilleurs auteurs pour les meilleurs sujets. Et ensuite, je m'occupe de tout ce qui est rédactionnel. C'est une revue inclusive. Il y a beaucoup d'encadrement qui est fait auprès de très jeunes auteurs. Donc, nous, on n'a jamais, jamais, jamais de problème de relève. Le problème ne se situe pas là. Quelques règles éthiques, ça j'y tiens absolument. Pas de droit de regard avant publication, ça va de soi pour les gens qui sont interviewés. Pas de junket, c'est pas la presse. On fait des junkets quand c'est obligatoire, ça c'est les reportages payés. Pas de conflit d'intérêts, on essaye. En tout cas, s'il y en a, on précise naturellement au lecteur, ça aussi j'y tiens, mordicus. Puis on essaye de ne pas céder, et ça c'est extrêmement difficile, parce que les revues, on n'a pas un énorme poids, par exemple, au Québec, contrairement aux revues françaises. On essaie de ne pas céder à toute cette ère promotionnelle. Donc pas de pré-papier pour, je sais pas moi, publier la critique 3 mois après, 4 mois après. Non, non, si vous ne nous montrez pas le film, on n'en parlera pas, c'est tout. Donc, ça c'est la revue. Maintenant, le deuxième combat, surtout le combat du titre, un combat tous les instants, eh bien, c'est le développement du lectorat. C'est nous, on pense offrir quelque chose d'intéressant au public. On pense offrir un beau buffet de textes à chaque numéro. Et ensuite, ben, il faut sortir, puis il faut faire tout un paquet de démarches pour essayer d'intéresser les gens. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment un combat de tous les instants. Et là, je reprends ce que disait... que tu disais hier, Lise, excuse-moi. Lise, hier, c'est... après avoir tout fait, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et on nous dit partout que les abonnements, ben anyway, faut pas se décourager, ça diminue partout, et que c'est déjà formidable de maintenir le niveau année après année. Donc, tout ce qu'on perd, on le récupère. Mais pour moi, non, c'est pas assez, t'sais. Il faut se battre davantage. Et je vais me battre, je pense, tant et aussi longtemps que les gens, que la plupart des gens au Québec connaîtront au moins l'existence de Cinébule. Après ça, ils feront le choix d'y adhérer ou non. Donc là, présentement, où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Il me reste combien de temps?
Ça va très bien.
Ah oui?
OK. 5 minutes.
Ah, formidable. J'ai du temps pour les autres. Donc, ce qui fonctionne très bien, ce que j'ai développé, ce que j'ai mis sur pied, c'est une espèce de revue, une espèce de cinébule, mais incarnée dans une conférence. Ça s'appelle Cinébule de A à Z. Et je savais que ce serait comme assez austère d'aller présenter ça aux profs, dans les cégeps, aux élèves, aux étudiants. Alors, ce que je fais, c'est que ça dure 3 heures à chaque fois. Pendant 2 heures, j'explique de A à Z un peu, j'essaye. Comment fonctionne le cinéma au Québec. Donc, c'est vraiment une conférence de vulgarisation. Un peu ce qui est Cinébule, finalement. J'essaie d'incarner les textes. Puis, vous voyez, là, on a un exemple formidable parce qu'on vient de vivre une campagne fédérale où on a beaucoup parlé de culture, ce qui est assez rare. On a parlé de subventions en culture, on a parlé de coupes. Et ça fait déjà 2 ans, moi, dans mes conférences, que je commence toujours par parler du financement de la culture et surtout du financement du cinéma et de l'absolue l'aide nécessaire de l'État, sinon il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de culture. Et je le fais très, 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 très concrètement, et ce, en prenant les films commerciaux les plus populaires au Québec. Je prends même pas Continental ou Le Ring, là. Je prends carrément Bon Cop, Bad Cop. Alors, en faisant une démonstration, chiffres à l'appui, coûts de production, revenus de box-office, division entre distributeurs et exploitants. Alors, on voit rapidement que c'est absolument impossible de faire du cinéma sans aide de l'État, contrairement à ce que certains écrivent dans des blogs ou des courriers du lecteur. Alors, vous voyez que je prends peut-être ça personnel, mais le combat, il est vraiment partout. Donc, cette conférence, ça fonctionne très bien. Et pour ça, ben, c'est sûr qu'il faut avoir envie d'aller à la rencontre des étudiants. Il faut avoir envie de communiquer. Pour l'instant, j'en ai fait 50. Et ce qui me réjouit, c'est que ben, non seulement ça semble être apprécié, et des profs et des étudiants, mais après 2-3 heures, ben, les étudiants qui sont là connaissent au moins très bien la revue Cinébule. Après, ils peuvent décider d'y adhérer ou non, mais ça fonctionne quand même assez bien. Je terminerai en disant un mot. Si vous avez des questions, on y reviendra plus tard, mais bon, on a beaucoup parlé depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'on faisait? L'Internet. Alors, moi, ça m'a pris un certain temps à me faire une tête là-dessus. Parce que Ma préoccupation, c'est tous ces textes-là que je vous disais. Là. Par exemple, on a fait 90 pages en 18 articles sur 6 numéros sur le ring pour tout expliquer la production. Je pense que sur la post-production, l'article doit faire 22 pages. Alors, c'est vraiment des textes qui sont, des dossiers qui sont extrêmement riches. Et j'avais envie, on a toujours envie de leur donner une seconde vie. Et naturellement, à l'échelle, bon, planétaire, dans le milieu francophone, dans le monde francophone. Et le truc, c'est le web. Sauf que moi, je veux quand même essayer de rester correct envers les gens qui ont d'abord payé pour avoir ces numéros-là. Donc, ça va être rendu disponible par article, en format PDF, parce que pour moi, c'est pas vrai, on lit pas des textes à l'écran. Surtout pas des textes de 10 ou 12 000 mots. Donc, ça va être en format PDF, regroupé par article, et ça va être accessible en extranet aux gens qui vont s'abonner à la revue. Donc, et moi, depuis 7-8 ans, j'ai tous les droits d'auteur. Tous les auteurs ont cédé leurs droits. Puis ils comprennent très bien la situation. Donc, nous, c'est la première étape qu'on va faire. Si un jour la BANQ est prête à nous recevoir numérisation dans le standard qu'elle veut, on verra. Mais pour l'instant, ça va d'abord passer par notre site pour faire revivre ces articles-là. Et naturellement, on va rendre comme un appât, c'est pas très gentil, mais on va quand même dire aux gens, à l'internaute qui visite le site, qu'est-ce qu'ils pourraient retrouver comme ancien texte, en espérant le voir s'abonner. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Éric Perron. Alors, nous entendrons maintenant Jacques Doyon, qui est directeur de la revue Ciel variable depuis 2000 et vice-président de la SODEP. Il a été directeur adjoint à la revue Muse, revue de l'Association des musées canadiens en 1999 et 2000, membre du comité de rédaction de la revue Inter de 1983 à 1985. Il a également été agent des bourses aux artistes en arts visuels, photographie et architecture au Conseil des arts du Canada de 1992 à 1997. Il a aussi été directeur de la programmation à la Galerie Optica de 1985 à 88, commissaire d'exposition et critique, notamment co-commissaire et organisateur de l'exposition Fission singulière au Diefenbaker à Ottawa, Axneau-7, Gatineau en 2000. Il a été aussi commissaire et organisateur des événements photosculpture et histoire de bois, présenté au studio d'été de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à Montréal, à Optica et au Borough, le tout suivi d'une circulation dans les musées québécois et canadiens entre 1988 et 1992. Je cède donc tout de suite la parole à Jacques Doyon.
Bonjour, bonjour. Moi, j'avais préparé une intervention qui portait vraiment sur la notion de scène commune, scène partagée. J'allais omettre totalement de dire quelques mots sur la revue, alors j'ai rajouté ça un peu, puisque tout le monde le fait. J'ai pensé que ça devenait pertinent de le faire. Et ma présentation est peut-être un petit peu longue, j'accélérerai s'il le faut. Donc je dirais simplement à propos de la revue, c'est qu'elle a été fondée en 87 par un collectif de jeunes sans emploi, avec la volonté d'une prise de parole publique quant à leur propre situation. Prise de position et analyse sociale, textes littéraires et photos documentaires articulaient des points de vue sur l'ère du temps. Très tôt, la revue a fait appel à des personnalités publiques, comme le maire Doré même, alors au moment où il était dans l'opposition. Elle entend donc s'adresser à un public assez large. Elle se distingue en soi des prix de l'AEPCQ, l'Association de l'art. 19 numéros plus tard, les fonds manquent, les énergies se tarissent et la revue est rescapée par Vox, qui est créateur du mois de la photo à Montréal. La revue se recentre alors sur la photographie contemporaine et publie portfolios et textes spécialisés. Durant quelques 10 ans, sous le nom de CV Photo, pour Ciel variable photo, la revue contribue à la connaissance et à la légitimation de la photographie comme pratique artistique au pays. À partir de 2004, la revue reprend le nom de Ciel variable et renoue avec un mandat plus élargi dans une volonté de replacer la photographie en relation non seulement avec les pratiques artistiques, mais aussi avec une notion de média, entendue autant comme technologie que comme véhicule de communication et ses impacts sur la culture. Et c'est le défi que nous essayons encore de relever, montrer, relayer et contextualiser ce qui se fait dans les pratiques même des artistes et qui relève d'enjeux de la culture actuelle. Notre dernier numéro s'attache ainsi à détourner la notion de banque d'images qui renvoie à une utilisation fonctionnelle et stéréotypée de l'image dans le milieu de la communication en mettant de l'avant des usages exploratoires et érudits des archives d'images qui constituent autant de plaidoyers pour une littératie visuelle, soit une capacité, un apprentissage à la lecture des images. Alors, mon allocution comme telle porte donc sur la notion de scène, notre scène commune. Y a-t-il trop de revues culturelles au Québec? Me demandait la jeune journaliste du Devoir. Des revues qui n'arrivent pas à rejoindre leur public. Trop de revues? On pourrait se demander tout aussi bien s'il y a trop de journalistes, à mon sens. Il vaut peut-être mieux aborder la question d'une autre façon. La profusion des revues serait plutôt le signe d'une vitalité du milieu artistique québécois et de sa diversité. Elle serait aussi le reflet d'une transformation accélérée de la société québécoise. La persistance des revues, malgré les difficultés de l'entreprise, serait plutôt indicative d'un engagement réel pour le maintien d'une culture pleine et entière dans un environnement médiatique trop axé sur la promotion des produits et des événements culturels. Les revues sont en effet des diffuseurs et des catalyseurs de la culture. Elles contribuent activement à la promotion et la connaissance des démarches créatrices d'ici et de maintenant. Et elle stimule la réflexion sur ses réalisations et sur leurs enjeux par le biais des commandes qui sont faites aux auteurs et aux chercheurs. Les revues culturelles sont un maillon du milieu artistique. Leur nombre est à l'image de la multiplicité des initiatives du milieu de la création et de la culture d'ici. Du nombre, certaines se démarquent plus que d'autres. Certaines reçoivent un plus grand écho, ont un plus grand impact. Mais leur multiplicité est le ferment même à partir duquel naissent les initiatives les plus réussies, les plus marquantes. La multiplicité est nécessaire. Nous ne voulons pas du modèle de la concentration fondée sur des arguments d'économie d'échelle et d'efficacité marchande. Ce que sont les revues culturelles? Les revues culturelles se rejoignent très certainement sur une scène publique où se jouent les enjeux actuels de la création et de la culture. Mais ce qui les spécifie peut-être encore plus, c'est que ces revues émanent des milieux mêmes qu'elles entendent représenter et animer. Que les personnes qui les créent et les produisent, de même que les collaborateurs qui remplissent leurs pages, sont des acteurs de ces milieux et qu'ils contribuent à leur développement. Leur contribution réside essentiellement dans ce qui fait la qualité et la contribution même de toute revue, soit sa politique éditoriale, avec ses axes d'intervention privilégiés, ses positionnements et sa distance critique, contrairement à ce qui se fait dans la majorité des médias. L'autre élément fort de notre identité commune est le fait d'être constitué en organisme à but non lucratif et d'œuvrer en fonction d'objectifs essentiellement culturels. Combien de revues culturelles au Québec? Il doit bien exister 70 revues produites par des éditeurs, créateurs, critiques, universitaires, directement investis dans leur milieu. L'association, la SODEP, en regroupe déjà presque une cinquantaine et il doit facilement en exister une vingtaine d'autres, revues récemment créées, revues électroniques, revues anglophones, revues multiculturelles, dont un certain nombre qui participent à ce colloque, en plus de ceux de la SODEP. Il est symptomatique, cependant, que nous n'en connaissons pas le nombre exact. Nous devrions avoir une idée un peu plus juste de la scène sur laquelle nous opérons, à mon sens, et de nos alliés potentiels. Il existe des revues spécialisées dans tous les domaines artistiques, comme on le sait, la plupart du temps ouvertes à des champs connexes. Il y en a d'autres qui s'intéressent à des analyses globales de la culture et de la société, à l'histoire, au patrimoine. Leurs factures et leurs contenus sont très variés, tout comme leur ampleur et leur mode d'opération. Certaines sont animées par des collectifs de création ou de réflexion. D'autres assument essentiellement un rôle de diffuseur et de promoteur de la création et de la réflexion. D'autres, enfin, sont directement liées à des groupes de recherche universitaires. Certaines naissent à peine, d'autres existent depuis 50 ans. Les tirages varient de quelques centaines à quelques 8000 copies, peut-être. Certaines ne sont distribuées que dans les réseaux de librairies spécialisées, alors que la grande majorité est distribuée en kiosque, principalement au Québec, quelquefois au Canada, et quelques autres à l'international, quoique de façon limitée. La grande majorité des revues paraissent sur support imprimé, mais il existe de plus en plus de revues exclusivement publiées sur support électronique et diffusées sur Internet. Quelques-unes travaillent les deux supports. On trouve des revues réalisées sur une base presque entièrement bénévole. C'est le cas des toutes jeunes revues, mais aussi des revues académiques où les auteurs ne reçoivent pas de cachet. On y retrouve parfois un secrétaire de rédaction minimalement défrayé par une bourse de recherche. La très grande majorité des autres revues sont produites par des équipes de une, deux, trois personnes, souvent à temps partiel. Elles collaborent sur une base contractuelle avec des auteurs, traducteurs, réviseurs, graphistes et font affaire avec des boîtes de pré-presse, imprimeurs, agences de gestion, vente d'abonnements, vente de publicité, envoi postal, distribution, etc. Toutes disposent ainsi de ressources limitées dont elles font un usage intensif. Malgré la richesse et la profusion de leur contenu, malgré la grande qualité avec laquelle elles produisent trimestre après trimestre leurs numéros, les revues constituent en effet un secteur faible des milieux de la culture, alors même qu'elles constituent un relais important de sa diffusion, et ce, dans la durée, puisque l'on collectionne les revues, on ne les jette pas. Le fait est qu'à l'heure actuelle, il suffirait souvent de très peu d'argent supplémentaire pour maximiser les effets du travail que nous faisons. Les coûts de base sont les plus importants, alors que les coûts pour accroître les tirages et la distribution seraient marginaux, ou sont marginaux. Alors, une scène commune. L'énoncé d'intention en préparation de ce colloque énonçait la question d'une scène commune au sens d'une sphère publique qui serait centrée sur les enjeux de la culture. Une telle scène commune existe-t-elle? La revue est un média de communication, mais un média fondé sur un modèle devenu relativement marginal, je dirais. La revue est en effet fondée sur l'esprit d'une appartenance à une communauté active, plus ou moins restreinte, avec l'objectif d'animer une sphère publique au sein de laquelle le discours analytique et l'échange d'idées ont une prépondérance et une légitimité. Cet idéal constituait l'horizon à la fois des revues conçues comme manifestes d'avant-garde, tout comme la première forme des journaux d'opinion. Cette scène de la parole publique s'est depuis ce temps radicalement transformée. Paradoxalement, elle s'est à la fois contractée et étendue. D'un côté, la parole informée est devenue largement l'affaire des experts, conseillers ou consultants que l'on convoque pour des prestations circonscrites. Parallèlement, les médias d'information sont devenus des conglomérats de presse, animés par un esprit de concentration et de convergence dont le moins que l'on puisse dire est que les effets premiers ne sont pas la multiplication des points de vue. D'un autre côté, le développement fulgurant de l'Internet a ravivé une utopie communicationnelle tout azimut, comme ce fut le cas lors de la naissance de tous les médias de communication modernes. La liberté de création et de parole connaît une extension considérable. L'on peut aujourd'hui dire, échanger et publier pratiquement tout ce que l'on veut, et les formes d'échange les plus libres connaissent une vogue impressionnante. Mais pour des contenus plus développés, l'enjeu s'est simplement déplacé et demeure fondamentalement le même. C'est celui des moyens permettant de se faire entendre et de surnager dans un environnement médiatique contrôlé par les grandes entreprises. La scène publique commune est de fait une scène partagée. Je perds ma voix. Une scène multiple, une scène saturée. Et les moyens des revues pour faire entendre leur voix sont bien faibles. On le constate aisément quand on se retrouve parmi les centaines de magazines dans les kiosques à journaux. On le subit encore plus durement dans un environnement médiatique qui nous ignore, alors qu'à mon sens, certains magazines et certains journaux devraient au contraire parrainer nos initiatives. La situation est d'autant plus paradoxale que nous sommes nous-mêmes partagés entre une culture de l'expertise et une culture de la parole publique. Nous sommes bien ancrés dans nos communautés de lecteurs et de collaborateurs, mais nous oublions parfois que nous devons aussi tendre des ponts et orienter notre parole vers un public un peu plus large et moins spécialisé. Quels sont les défis auxquels font face les revues? Les défis ne sont évidemment pas les mêmes pour toutes les revues. Les objectifs, la portée des enjeux, la nature du développement, les énergies pouvant être déployées diffèrent grandement d'une revue à l'autre. Ainsi, certaines font encore face à la nécessité d'établir une simple permanence. Toutes, cependant, font face à un déficit de visibilité et de diffusion. Les revues culturelles peuvent toutes compter sur une communauté de lecteurs fidèles et la grande majorité d'entre elles se retrouve dans les bibliothèques publiques et universitaires, mais les tirages et la diffusion demeurent tout de même, dans la majorité des cas, relativement restreints. Certaines rêveraient d'une diffusion internationale plus soutenue, alors que d'autres continueraient, pour des raisons éditoriales, à ne vouloir rejoindre qu'un public étroitement ciblé. Certaines désireraient développer une parole rejoignant un public un peu plus large, d'autres plus spécialisés, aspireraient à tout le moins à faire sauter quelques cloisons. Comment permettre aux revues de poursuivre chacune leur développement respectif? Comment leur permettre d'accroître leur visibilité et leur lectorat à leur échelle? Des pistes de solutions. Il me semble que plus que jamais, nos efforts doivent être conjugués. Nos moyens individuels étant trop limités, il nous faut renforcer notre association pour une parole commune plus forte, à l'image d'une initiative comme celle de ce colloque, dont il faut saluer l'initiative, je pense. La SODEP, l'Association des revues culturelles du Québec, existe depuis 30 ans et elle regroupe déjà près de 50 membres. C'est, à mon sens, un formidable outil dont il faudrait nous servir de façon plus importante. En dépit d'une mobilisation irrégulière de plusieurs de ses membres, l'association est active. Elle compte notamment parmi ses réalisations récentes la finalisation d'un outil de gestion d'abonnement venant combler un important besoin et la parution du récent cahier de devoirs consacré aux revues culturelles. Un projet mené à bien par Sonia Pelletier et, il faut encore une fois le souligner, rendu possible grâce à la réalisation de ce colloque qui donnait une actualité à la publication du cahier. À mon sens, la période est propice. La SODEP vient de mettre au point un plan de développement stratégique pour les trois prochaines années qui vise essentiellement à accroître la présence publique et la diffusion des revues. L'occasion est belle de mettre la main à la pâte avec l'espoir d'obtenir des résultats un peu plus concrets. Toutes les revues présentes à ce colloque devraient, à mon sens, être membres de l'association, par exemple. Depuis 30 ans, la SODEP représente les éditeurs de revues culturelles et défend leurs droits, travaille à leur rayonnement, tisse des liens avec le milieu de l'enseignement, les bibliothèques et les médias. Créée à l'origine comme association de promotion du travail des éditeurs de revues, elle s'est transformée en société de développement des périodiques culturelles pour marquer un certain tournant vers l'extérieur. À mon sens, il est temps de donner un tour de vis supplémentaire à ce tournant. Je crois que l'association devrait axer encore davantage ses activités vers un plus large public. À cet effet, il serait peut-être pertinent de développer une nouvelle image pour l'association, la doter d'un nom, par exemple, qui interpelle le public plutôt que ses membres. Québec en revue ou Revue du Québec décrirait ainsi peut-être plus clairement notre identité collective. L'Association des éditeurs de magazines canadiens, la Canadian Magazine Publishers Association, est ainsi devenue Magazine Canada, au moment même où elle entreprenait systématiquement des campagnes de promotion auprès du public. Je suis aussi de ceux qui croient qu'il faudrait élargir le membership de l'association pour qu'elle regroupe l'ensemble des revues culturelles. Sans restriction de support d'édition, de communauté, de langue, afin d'accroître et de renouveler notre présence collective. À défaut de regrouper les magazines à grand tirage, comme le fait Magazine Canada, il faudrait à tout le moins développer des alliances stratégiques avec Magazine du Québec, leur association, de même qu'avec d'autres organismes et associations culturelles. Il nous faut aussi renouveler les initiatives de promotion collective et développer une présence plus dynamique sur le web, visant essentiellement à rejoindre un plus large public. Là aussi, Magazine Canada a un site web pour la promotion et l'abonnement des revues, qui est distinct de celui qui s'adresse aux éditeurs. Présence publique et lobby. Le plan stratégique prévoit aussi de développer les lobbying et la présence publique de l'association. Il nous faut parler d'une voix plus forte par des prises de position publiques sur les points qui concernent nos intérêts communs. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, réagi à la fermeture ou la suspension de Parachute, ou à tout le moins marqué le coup? Les avis sont partagés mais c'était à tout le moins l'occasion de souligner l'excellence du travail accompli et la nécessité pour les revues d'une diffusion internationale et d'un soutien pour l'élargissement de leur distribution. À titre de diffuseur actif de la culture et de catalyseur de la réflexion sur la culture, nous devrions jouir de soutiens équivalents à ceux des autres diffuseurs pour la mise en marché et l'exportation. Je sais que ce soutien est actuellement en recul, mais même précédemment, nous n'étions pas considérés comme des diffuseurs à plein titre. Il nous faut établir un portrait plus précis de notre situation actuelle et de nos besoins de développement, dresser un tableau d'ensemble du soutien que reçoivent les revues culturelles des différents secteurs, suivre son évolution, faire état des nouveaux besoins. Cela ne sera possible qu'avec la contribution de chacun d'entre vous. Il nous faudrait négocier des partenariats collectifs avec le public et le privé. Les revues culturelles devraient se retrouver dans toutes les bibliothèques. L'exemple récent du soutien de l'Auto-Québec pour un abonnement à Vie des arts dans toutes les bibliothèques du Québec démontre que toutes les bibliothèques n'ont pas les moyens de s'abonner aux revues. Il y a là, me semble-t-il, une belle occasion de solliciter un mécénat privé qui soit un peu significatif. Je suis aussi partisan de collaboration avec le milieu du journalisme. Il serait à notre avantage, je crois, que les réalités de notre milieu fassent l'objet, dans nos pages, du regard scrutateur de journalistes d'enquête. Nous devrions même contribuer à former des journalistes culturels. Mais il s'agit ici de contenu éditorial. Et je répète que les magazines à grand tirage et certains journaux devraient parrainer nos initiatives, à tout le moins certaines d'entre elles. Un dernier point, promotion, commercialisation. La SODEP a aussi inscrit à son plan stratégique de développement le développement d'initiatives de promotion sectorielle de ses membres. C'est un tournant puisque jusqu'à maintenant, ces initiatives devaient permettre de promouvoir uniquement l'ensemble de ses membres, ce qui favorisait surtout des présences dans les salons du livre et dans les universités. Il nous faut réinventer et démultiplier les occasions de présence publique des revues à l'occasion d'événements et de colloques dans toutes les disciplines artistiques et dans tous les secteurs de la culture. C'est un important défi et l'association ne pourra le relever sans la collaboration de ses membres, encore une fois. Un exemple, une dernière fois encore sur ce colloque, qui est une initiative qui est venue en dehors de l'association, en collaboration avec, initiée par une revue membre, mais en collaboration avec une revue non membre. Des initiatives comme celle-là, il faut qu'il y en ait de plus en plus, et il faut que la SODEP les permette et les soutienne, permette même de les multiplier, en fait. Il nous faudra aussi inventer de nouvelles façons de promouvoir et de mettre en marché nos revues. Il est fâcheux, par exemple, qu'une initiative comme celle de Rabais Campus, qui offre des abonnements aux revues culturelles, aux magazines à grand tirage et aux journaux, à prix privilégié pour les étudiants et certaines associations professionnelles, ne soit pas une initiative créée par la SODEP, dont nous pourrions retirer les retombées. Il nous faudrait innover aussi dans le domaine de la diffusion. Alors voilà, ce ne sont que quelques pistes de réflexion. En tant qu'éditeur de revue, nouvellement élu au CA de la SODEP, sous la poussée du désir de changement manifesté lors de la dernière assemblée annuelle, je souhaite seulement que ces réflexions incitent à prendre une part plus active.
Alors, nous aurons matière à réflexion et à discussion dans quelques minutes. Merci beaucoup, Jacques Doyon. Nous entendrons tout d'abord Frédéric Bernier et Étienne Beaulieu des Cahiers littéraires Contre-jour. Frédéric Bernier s'intéresse aux figures de l'auto-engendrement littéraire dans le cadre d'un stage postdoctoral à l'Université Harvard. Elle a terminé une thèse sur les poétiques du dépouillement chez Saint-Denis Garneau et Samuel Beckett à McGill, et elle a publié une étude intitulée les essais de Jacques Brault de Seuil en effacement chez Fides en 2003. Elle est membre du comité de rédaction et coordonnatrice à la rédaction des Cahiers littéraires Contre-jour. Étienne Beaulieu est professeur adjoint à l'Université du Manitoba et s'intéresse aux cultures de la prose chez quelques auteurs du tournant des Lumières jusqu'au 21e siècle. C'est tout un programme, j'en suis persuadée. Il est attentif de même à la culture québécoise moderne, cinéma, prose, poésie, ainsi qu'au processus de création littéraire. Il a fait paraître, en 2007, un ouvrage portant sur le cinéma québécois, intitulé « Sang et lumière, la communauté du sacré dans le cinéma québécois », publié chez L'Instant Même, ainsi que, en 2008, une version remaniée de sa thèse intitulée « La fatigue romanesque de Joseph Joubert, 1754-1824 », parue aux presses de l'Université Laval. Je leur cède tous les deux la parole.
Parce qu'en plus, on est deux.
Parler dans l'axe.
Ah, oh, ça va être difficile. Voilà.
Ouais, à deux, ça va être complexe. Oui. Bon. Donc, 5 ans d'obscurité. Prologue.
Si nous sommes deux ici à présenter les cahiers littéraires contre-jour, c'est paradoxalement parce que nous avons du mal à parler d'une voix commune. Le comité de rédaction de contre-jour, pourtant fondé d'abord et avant tout sur l'amitié et la connivence, constitue une communauté de solitaires qui se rebiffent chaque fois, immanquablement, lorsqu'il s'agit de proférer une parole unique, unifiée et lisse. Il n'y a d'ailleurs pas de directeur à contre-jour, seulement un comité qui prend ses décisions à majorité absolue. Le consensus paraît impossible chez nous. Il y a peut-être à l'origine un malentendu au sujet de notre entente et qui fait que l'on s'entend. Contre-jour parlera donc aujourd'hui à deux voix pour faire entendre la contradiction, le différent qui la ronge. Épisode 1, où l'impossible manifeste.
Il n'y a pas eu de manifeste en bonne et due forme donnant à lire de façon claire et limpide le programme idéologique de contre-jour. À se demander s'il y a une idéologie de contre-jour. Ce n'est pas cependant faute d'avoir essayé. Plus d'une quinzaine de textes ont été rédigés dans les deux premières années d'existence de la revue, sans parvenir à s'imposer de façon assez nette pour être publiés. Cette absence de manifeste a fini avec le temps par devenir une forme de manifeste en soi. Silencieusement, cette impossibilité de s'entendre sur des formules manifestaires déclare pour nous, en substance, que l'ère des avant-gardes et des programmes esthétiques collectifs est aujourd'hui terminée pour nous. Nous rejetons, en effet, l'origine militaire du terme même d'avant-garde, qui vient tout droit de l'époque napoléonienne, expression archi-usée et dont les oripeaux sont aujourd'hui le plus souvent des parodies de contestation dont le scénario a été joué 100 fois. Il faut par contre se garder de tout simplisme et refuser de sauter à la conclusion que rien de neuf ne s'annonce aujourd'hui par là et qu'il ne reste aujourd'hui au Québec qu'à retourner sur le perron de l'Église par le météo et agriculture. Les idées bougent, bien sûr, encore et toujours, mais il s'agit de trouver une autre manière d'exprimer leur mouvement, de trouver des nouveaux noms pour ce genre de choses. L'ère du temps n'est plus au manifeste, à son ton stalinien et doctrinaire, mais il est peut-être un peu trop à l'inverse, à la langue de bois qui préfère s'abstenir de prendre position. La ligne du risque que cherchait Pierre Vadeboncœur il y a 50 ans, dans son texte éponyme, est plus que jamais retrouvé pour un intellectuel d'aujourd'hui. Mais rien n'étant simple, ce n'est certainement pas en répétant les pensifs de la Révolution tranquille que l'on fera bouger quoi que ce soit. Avant tout, il faut d'abord prendre conscience que d'accuser d'être ringard ceux qui se détachent des avant-gardes constitue une ringardise d'autant plus crasse qu'elle bloque le sens de l'histoire.
Le sens de l'histoire.
Épisode 2, de l'immodestie.
Contre-jour est né de ce qu'on peut appeler, je crois, un projet ambitieux, celui de créer un espace pour une pensée littéraire. Pensée littéraire au sens fort, au sens peut-être romantique allemand, de réflexion sur, mais aussi par ou au travers de la littérature. Ceci suppose une relation très exigeante à la littérature, et en vertu même de cette exigence, nous sommes sans doute porteurs d'un certain absolu littéraire. Nous sommes en cela terriblement sérieux, ténébreux peut-être, et immodestes. La littérature est envisagée par nous comme le lieu par excellence de la pensée. On dira que c'est un rapport d'adhésion, un rapport de croyance naïf, une quête de transcendance par la littérature. C'est tout à fait cela. On pourrait même ajouter que nous versons régulièrement, à heure fixe et sur une base hebdomadaire, dans une théologie négative. Nous publions 3 fois par année poèmes, nouvelles, proses, essais, dossiers et notes de lecture. Entre les numéros, nous discutons ferme et tournons autour de la littérature, comme autour d'un centre tour à tour vide et plein. Épisode 3 de la théologie négative, dont nous ne parlerons pas davantage.
Évidemment. Oui, donc de la théologie négative appliquée à l'art littéraire, rien de moins. À bien y penser, il s'agit peut-être de cela dans Contre-jour. Il y a tout le moins une tension qui se maintient tant bien que mal entre la volonté acharnée à dire tout maintenant, exactement comme il aurait fallu que les choses soient dites, et d'une part et d'autre part, la contradiction que cette tentative subit aussitôt de la part d'un autre membre du comité, ou même, ça arrive assez fréquemment, du même membre. C'est cette tension entre le scepticisme et la croyance qui tient Contre-jour en vie, après maintenant presque 6 ans. Oui, les cahiers littéraires Contre-jour, fondés en 2003, ont célébré cette année leur 5e anniversaire. Cette nouvelle n'a rien de bien fracassant, évidemment, sauf pour qui connaît un peu le milieu des revues littéraires. Dans le cas d'une jeune revue de ce type, publier quelques numéros constitue cependant un effort suffisamment épuisant pour qu'ils deviennent sans suite. Quantité de revues naissent et meurent chaque année au Québec. Lorsque Contre-jour a été fondé, il y en a eu 4 la même année. On est la seule à avoir survécu à cette hécatombe. Très peu survivent vers leur premier cycle de publication. Pour beaucoup, ces revues ne disparaissent pas en raison d'un moins haut niveau ou d'une moins grande pertinence. C'est malheureusement souvent le contraire. Mais parce que leur projet ne pouvait s'accomplir que dans la brièveté. Et c'est là, ça a été une tension très forte à Contre-jour. La brièveté, qui est un cri, ou au contraire, s'étaler dans la durée. Donc, de très grandes revues sont ainsi passées dans le ciel littéraire en météore énigmatique. L'Athénéum des frères Schlegel dans l'Allemagne des premières années du 19e siècle. Orfeu, la revue de Fernando Pessoa et de quelques autres, abandonnée après 1 ou 2 tirages infructueux. Ces grandes revues étaient les modèles de départ des fondateurs de Contre-jour, dont le premier nom devait être « Le cri de Perséphone ». Et c'est défendu de rire. D'accord. Ce cri mortel de la chute aux enfers, par définition bref et presque inaudible, s'est étalé dans la durée et s'est mué en une voix plus civilisée, je dirais. Au lieu d'un coup de tonnerre proféré en pleine lumière et destiné à disparaître aussitôt, les voix des cahiers littéraires Contre-jour donc, ont choisi une parole murmurée dans l'obscurité. Épisode 4. Un sérieux indécrottable.
À Contre-jour, on a aimé dès le départ les grands mots et les grands noms. On s'est réclamé des grandes revues. On a donné dans le grand cahier blanc, épais, avec de grandes marges et peu d'images, en noir et blanc en plus. Mais on promet d'essayer plus d'images et même de la couleur bientôt. On a assumé sans vergogne les grandes références philosophiques, il n'y a rien de pire pour avoir l'air fendant. Et les questions démesurées, celles de la croyance et du cynisme notamment. Et ce, en nous prenant tout à fait au sérieux, ce qui est peut-être la plus grave de nos tares. Encore que récemment, on ait fait un essai d'humour. Après la question du silence, de l'animalité, du paysage, des têtes de Turc, après Patochka, Jacques Brault, Inoué, Pessoa, Yvon Rivard et Léopardi, notre dernier numéro présente un dossier intitulé « Du pet ». On voulait faire rire. Est-ce que c'est bien ça qu'on voulait?
Je ne sais plus exactement.
On ne sait plus, hein? Mais ce dossier-là a peut-être surtout réussi à prouver que rien, pas même un vent absurde, ne résiste à notre sérieux. Pourtant, quoi qu'on en pense, notre sérieux n'est pas du tout celui des revues universitaires. Nous n'avons strictement rien de scientifique. L'édifice de Contre-jour ne repose pas sur un savoir quant à la littérature, mais sur des subjectivités qui se laissent affecter par elle. Épisode 5 de l'amitié.
C'est un peu là où on en est rendu, d'ailleurs. Donc, tous ceux qui ont fait partie d'une revue littéraire vous le diront, il n'y a qu'une seule chose qui fasse tenir debout un tel projet, c'est l'amitié. C'est un thème qui, d'ailleurs, revient un peu beaucoup depuis le début de ce colloque. C'est pas pour rien, c'est que je crois que c'est la loi implicite du milieu. Mais c'est une loi à double tranchant, hein, parce que ce sentiment fraternel est justement va d'un sens et dans l'autre. Si l'amitié favorise le partage d'idées, elle impose aussi une censure très subtile. Comment dire à des amis très proches que leur texte ne passe pas la rampe, malgré toute l'estime qu'on leur accorde? Le choix de transformer le cri de Perséphone en cahier littéraire Contre-jour en a impliqué un autre. Faire le pari de la durée allait de pair avec l'abandon de la veine polémique qui donnait leur impulsion au premier numéro. Donc, Contre-jour est aujourd'hui beaucoup moins polémique qu'elle l'était dans les deux ou trois premiers numéros. Le projet de départ voulait faire entendre des voix exigeantes qui, croyant la possibilité de faire bouger des lignes, dénonçaient à la fois la tentation du cynisme qui guette tout intellectuel aujourd'hui et pourfendaient d'un même trait les baudruches de la liberté triomphante. Cette double prise de position ne pouvait être entendue clairement. On y a vu aussi bien une attaque contre les baby-boomers que c'est vraiment n'importe quoi, qu'un retour à la tradition catholique, ce qui est encore... Et je vous jure, ça a été les deux. Donc, on y a même vu une vulgarisation de l'éthique, et une valorisation même d'un projet éthico-religieux et de la responsabilité tellement à la mode aujourd'hui, alors que nous dénoncions précisément ce genre de choses dès le départ, ce qu'on nommait dès les premiers textes comme un prêt-à-penser intellectuel dès les premiers textes publiés. Il ne s'agit donc dans Contre-jour de rien de tout cela. De quoi au juste? D'une tentative peut-être de retrouver la formule d'une nouvelle croyance fondée sur l'art. Rien de moins. C'est un romantisme, si l'on veut, mais c'est aussi une naïveté assumée, une lucidité qui en vaut bien d'autres. Destiné à s'ouvrir un grand dialogue, à ouvrir, disons, un grand dialogue d'idées en contexte québécois, pas nécessairement d'une manière polémique, aussi amicale, etc., ces textes sont demeurés sans réponse, pour la plupart, en fait presque tous. Sans doute parce qu'ils étaient trop virulents et mal adressés, donc parmi les quelques centaines de lecteurs que compte Contre-jour, personne et tout le monde se sentait visé, au fond, ou parce que le milieu littéraire québécois n'est peut-être pas structuré pour absorber de tels propos. L'échange d'idées n'est pas impossible au Québec, loin de là, mais le combat, donc de son nom, du nom Polémoï, pour la polémique, lui, ce combat, il demeure malheureusement, je crois, pour l'instant, encore à peu près impossible, comme je le disais hier dans mon intervention d'ailleurs, parce qu'il y a des attaques, mais il n'y a pas de réponse. Sans doute aurait-il fallu dire explicitement les noms des revues et des auteurs auxquels ces textes faisaient référence pour qu'ils se sentent le devoir de répondre. Hein? On se sent attaqué quand on sent qu'on attaque nos idées. Et c'est là l'idée. Les idées sont acquises. Peut-être aurait-il fallu faire ça. Mais le pari était de s'attaquer non aux personnes, mais aux idées précisément. Cela n'a pas été compris. Cela peut-il être compris dans un tel milieu? Contrairement à ce que le veut le cliché très répandu, donc, ce ne sont pas les polémiques qui sont impossibles à établir, ce sont les polémistes qui manquent. Ou même, on pourrait même retourner la formule, et dans un autre sens, elle fonctionnerait encore. Donc, faute de bonne foi réciproque, c'est surtout ce qui manque, je crois. C'est la bonne foi réciproque des deux côtés. De dire, je me fais attaquer, j'ai la générosité de répondre. Il vaut peut-être la peine de se demander s'il peut en être autrement dans cet environnement littéraire allant se rétrécissant chaque année, où il devient impossible de durer sans une très forte compromission avec les lois, avec le milieu et ses lois. C'est une question que je pose. Peut-être que c'est faux. Épilogue.
5 ans d'obscurité. Alors, finalement, pourquoi ce titre? Aurait-on idée de se plaindre de l'obscurité lorsqu'on est une revue de création et de réflexion littéraire et qu'on s'appelle « Contre-jour » ? Prenant plaisir à tâtonner dans la pénombre, à séjourner là où il n'y a rien à voir, ou presque, et donc loin des projecteurs, peut-être Contre-jour est-elle, jusqu'à un certain point, délibérément obscure. Encore que cela fasse l'objet d'âpres débats dans nos rangs, certains d'entre nous rêvant d'un lectorat plus étendu, d'une couverture médiatique plus éclatante, et même de textes plus avenants, la question de la place si restreinte que nous occupons dans l'espace public revient périodiquement nous hanter. Elle est un autre lieu de notre mésentente constitutive. Il me semble à moi que Contre-jour ne portera vraiment son nom et son ton propre que lorsqu'elle aura consenti à la quasi-invisibilité. Tant pis pour vous, cela n'arrivera pas.